Chase you out of earth.
Et tout de suite retrouver une nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans une nouvelle émission de Génération Sport. Avant de passer au programme de l'émission, je vais vous présenter les personnes qui m'accompagnent ce soir. À ma droite et à la régie, Cédric. Salut Cédric, comment ça va ?
Et salut à tous. Bah écoute, ça va super bien.
Bon week-end sportif ?
Ouais, avec pas mal de choses à dire. Premier Grand Prix à Las Vegas, on fera un petit bilan. Notamment de ça. Il y avait un beau match de FC 24 aussi, qui a été diffusé pour la première fois à la télé. C'est bien de voir les nouveaux sports émerger. Pas mal de choses aussi sur l'actualité locale.
Ouais. Des bons résultats des Ducs aussi.
Ouais, les Ducs. Deux matchs joués dans la semaine de victoire. Donc, voilà. On développera ça
tout à l'heure. À ma gauche aussi, Clément qui est là. Salut Clément.
Salut Faustin, salut à tous. Moi, ça va bien. À part une défaite ce week-end.
La première, non ?
Ouais. Pour le premier match, du coup, on était dans la division d'au-dessus. On a perdu 2-0. On s'est pris un rouge dès la 30e minute. Donc, ça a été un peu compliqué.
C'est quelle division ?
élite juste avant la région.
OK.
Donc si on gagne là ça va être un petit peu compliqué, mais si on finit premier on peut monter en région, mais là ça va être compliqué.
Un peu de challenge pour cette deuxième partie de saison. Au programme ce soir, on va commencer avec les actualités locales, avec le SCO et notamment leur victoire, ainsi que les Ducs qui ont brillé. On passera une petite chronique de moi sur le in-season tournament en NBA. On enchaînera sur les actus internationales. Et pour finir, un petit débat sur le ski et ce qui s'est passé en Suisse, dans la frontière suisse, entre la frontière suisse et italienne, pour des championnats du monde annulés. On va commencer sans plus tarder avec le SCO. Clément, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine pour le SCO?
Ouais, on va d'abord parler du SCO Foot qui samedi se déplaçait à Houille pour son entrée en lice en Coupe de France et a assuré son match face à une équipe de Régional 1, donc 4 niveaux en dessous du leur. Le SCO s'impose facilement 2-0 en continuant sur la dynamique de championnat, grâce à des buts de Diony à la 38e minute et Abdelli en toute fin de match sur pénalty pour sceller le score. Les SCOistes affronteront le Plessis Robinson R1, vainqueur de Brissac-Quincé qui était eux en R2 et qui ont fait un très beau parcours en arrivant au 7e tour. Donc lors du 8e tour, ils affronteront le Plessis Robinson.
Ok, parfait, c'est un match 2-0 maîtrisé.
Ouais.
J'imagine qu'ils jouaient pas à fond les SCOistes.
Non, et puis il y avait pas non plus l'équipe type, puisque il y a Untunji, je crois, qui est en sélection.
Ouais.
Et puis il a fait Alexandre Dujeu a fait tourner ses joueurs, je pense, aussi pour donner du temps de jeu
contre une R1.
C'est ça.
Pas la peine de sortir la grosse équipe, oui, à mon avis.
Puis il y avait aussi les conditions. Aussi bien en dehors du terrain que sur le terrain hyper boueux. Oui. En tout cas, ce qu'on voit des photos. Il pleuvait, donc ça durant tout le match, donc la pelouse elle a dû être super lourde en termes de crampons, ça a dû être compliqué, je pense, à trouver les bons tout au long du match. Mais le principal point au-delà de la qualification, c'est qu'il y a aucun blessé, donc
ouais, tant mieux. C'est parce que c'est des matchs un peu pièges à ce niveau-là.
Ah, bah, c'est ça.
La Coupe de France, on va jouer dans des...
C'est la magie de la Coupe de France. Exactement. Mais c'est vrai que des fois
ça peut être dangereux.
Enfin, la Fédé pourrait peut-être essayer de... Alors c'est toujours compliqué parce que dans ces cas-là, ça fait délocaliser un match, mais de trouver vraiment des terrains idéal pour aussi bien les amateurs que les professionnels.
En tout cas, pas de blessés, en espérant que ce soit la même chose pour le prochain match.
C'est ça.
Maintenant pour le hand.
Ouais, les handballeurs du SCO se déplaçaient à Caen pour la 10e journée de Pro League. Et les Angevins ont commencé sur les chapeaux de roue en menant rapidement de 5 points. Mais les Canets sont revenus petit à petit. Et à la mi-temps, les Noirs et Blancs gardent toujours un avantage de 2 buts. En deuxième mi-temps, les Canets, grâce à un 7-0 en moins de 10 minutes, vont renverser la tendance et finir par mener 29-24 à 10 minutes de la fin. Alors les Angevins vont parvenir à revenir à un petit point à la dernière minute de jeu et marquer le but égalisateur à seulement 5 secondes du buzzer. Le SCO enchaîne avec un deuxième résultat positif à l'extérieur en arrachant le nul sur les terres canaises et se replace à la 7e place. Ils recevront le deuxième du classement Ponto ce jeudi pour espérer continuer la dynamique présente.
Voilà, ils ont réussi à se relever après avoir subi une bonne série de défaites quand même. Ça, ouais. ça fait plaisir. Maintenant pour le basket, je vais commencer avec l'EAB qui ont enfin réussi à obtenir leur deuxième victoire. Ils mettent fin à une série de 5 défaites. C'était face à Poitiers sur le score de 99-81. J'allais dire heureusement, car Poitiers, c'était les derniers égalités avec l'EAB avant ce match. Donc maintenant, c'est pas fameux non plus. Ils sont avant-dernier avec seulement une victoire d'avance sur le dernier. Faut qu'ils continuent sur cette dynamique de victoire. Pour les femmes maintenant, c'est une reprise du championnat qui a eu lieu contre Montpellier. Et malheureusement, elles n'ont pas réussi à se remettre dedans tout de suite avec une défaite 86-72. mais elles ont surtout un très gros match qui arrive dès demain contre Galatasaray. C'est le match retour en Eurocoupe pour potentiellement récupérer la première place de la poule en cas de victoire, car les équipes sont à égalité en termes de points marqués exactement. Elles ont toutes les deux 324 points et l'UFAB a encaissé beaucoup moins de points. Donc, en cas de victoire des Angevines, elles passeraient première.
Ce sera un vrai exploit.
Oui, c'est clair que si elles arrivent à réitérer ne serait-ce que l'exploit du match aller de ne perdre que d'un point, ce serait déjà une grosse performance.
On va être dans une configuration complètement différente.
Ouais, là, à l'extérieur.
Oui, parce que déjà, on sait, c'était annoncé, il y a Léa Lacan qui est indisponible pour des raisons personnelles pour ce match-là.
C'est clair.
Donc,
que là, ça va
enlever, un plus à l'équipe. Il y a aussi une autre joueuse qui a été mise au repos pour éviter une blessure un peu plus compliquée. Donc je pense que là le match clairement c'est d'essayer d'aller chercher l'exploit, ça c'est sûr, mais peut-être un peu plus de repos, je dirais, enfin d'aller chercher du temps de jeu pour certaines joueuses,
ouais.
Et puis de prendre de l'expérience,
ouais, c'est
et cool. Du repos peut-être aussi du coup pour les cadres. Durant le match,
ouais, ça va pas être le même match que
non, c'est ça. La qualification est déjà faite.
Ouais.
Il y a le prochain gros match à domicile ou je sais plus si c'est domicile ou extérieur, mais c'est encore contre une tête de série. Donc,
ouais. En espérant quand même un bon résultat, mais ça risque donc d'être bien plus compliqué qu'à l'aller. Pour Cholet maintenant, ils ont joué trois matchs. Ils sont en train de jouer le dernier d'ailleurs. Le premier c'était contre Nancy, donc en Betclic Elite, une défaite 76-67. Ensuite un match contre l'ASVEL, une nouvelle défaite 73-69. Et actuellement ils jouent contre Rigas en Champions League et ils perdent de 3 points 61-58 à 3 minutes 14 de la fin du match. Ouais, ça va être serré. Il me semble qu'ils avaient gagné de très peu de points à l'aller. Ce serait bien de gagner, sinon ils sont un peu dans le mal pour se qualifier, pour sortir des phases de poule en tout cas. Voilà pour ce qui est du basket local. On va passer au hockey sur glace maintenant, avec, on le disait en début d'émission, les Ducs qui ont fait de très bons résultats avec d'abord une victoire 5-2 contre Gap, puis une victoire 3-0 à l'Esparc contre Marseille. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Cédric?
Ouais, la qualification en Coupe de France, assurée pour un tour supplémentaire. Ça,
c'est... Face à Épinal.
Face à Épinal, ouais. Donc ça, c'était aussi cette semaine. C'était limite la chose la plus importante, je dirais, de la semaine en termes de d'enjeux. Au niveau du classement, on est premier ce soir.
Ouais, toujours avec deux matchs d'avance.
Voilà, toujours deux matchs d'avance sur. Mais on sort tous deux matchs d'avance sur Rennes.
Rouen. Rouen est à 2 points de
Rouen, et
ils vont nous repasser devant.
Logiquement, ils nous repassent devant. Et après, le troisième, c'est Gap, Grenoble.
Ouais, Grenoble.
C'est Grenoble. Qui est, pareil, il y a deux matchs de retard, mais bon, en différence, eux, ils sont sûrs de
ils
rester.
Ils sont à 10 points de nous.
Ouais, ils sont à 10 points, ils restent troisième.
La deuxième place, c'est assuré.
Et pour la quatrième place actuellement, pareil, c'est Chamonix qui a deux matchs
et
aussi de retard.
Ils sont à 12 points de nous, ouais.
Voilà, donc, pour l'instant, on va dire que la première et la deuxième place est plus ou moins sécurisée avec ses bons résultats. Maintenant, ça va être de gérer les matchs justement contre ces adversaires-là. Et pas essayer de se faire surprendre aussi par le bas du classement. Donc, en tout cas, c'est bien. Il y a une bonne continuité, malgré qu'il y a eu des coups d'arrêt. L'équipe a l'air d'être, pour moi, un peu plus solide, je dirais, peut-être mentalement. Et l'apport de certains nouveaux joueurs aussi, je pense qu'il y est pour beaucoup.
Il y a un petit craquage quand même contre Marseille en fin de match avec la bagarre générale qui a éclaté. Ça te fait pas peur, justement, ce que tu disais?
C'est le hockey.
Ouais.
C'est le hockey. Après, je vais pas la juger parce que j'ai pas vu d'image ou je sais pas les raisons qu'on provoquait. Si tu veux.
Après, c'est un sport de combat aussi.
C'est ça, il y a toujours cette tension qui est là.
Ah, c'est pas un peu. C'est rare un peu quand même en Magnus des hauts players. Ah ouais?
Enfin. Ça arrive quand même, et ça prouve que voilà, il y a généralement c'est qu'il y a de l'envie, tout ça. Mmh. Si tu veux, moi, j'en ai vu une en match de pré-saison.
Ouais.
Voilà, où ça chauffait durant tout le match, en fait. Entre les décisions d'arbitrage qui n'étaient pas forcément correctes, les petites fautes un peu taquins, voilà, les petits coups de taquins qui sont pas repérés, enfin. C'est un ensemble, mais après, bon, généralement, quand ça explose, allez, on va dire, 2-3 minutes, et puis, une fois que tout le monde est calmé, de toute façon, ça finit soit en pénalité, soit c'est de la prison, voilà. Donc, en soi, c'est pas courant, mais ça fait partie du jeu, et il n'y a rien d'alarmant, en fait, parce que de temps en temps, ça explose, quoi. Faut vraiment voir, en fait, l'intégralité du match pour juger si c'était de la vue ou si c'est une suite de choses qui font que ça explose, quoi.
Ok, ouais. Et aussi sur la victoire contre Gap 5-2, on est d'accord, Gap, c'est l'équipe contre qui le Scogé, les Ducs ont pris une grosse défaite au début de saison. C'était Gap, il me semble. Ils avaient pris un 6-0, un truc comme ça.
Non, c'était 8-0.
C'est 8-0, ouais, carrément.
Je crois, ouais, tout comme ça.
C'était contre Gap. Ça prouve aussi qu'il y a eu des choses de fait et que l'équipe s'est améliorée entre les deux matchs, quoi.
Ouais, bah ça veut dire que ça travaille, c'est ça. Mais après, t'es jamais à l'abri, en fait, d'un non-match. Hein. Pareil, en début de saison, je crois qu'il y a eu des turnovers aussi importants pour tester l'équipe, il y a eu plein de choses comme ça.
Ouais, ça
dépend si tu mets ton gardien titulaire ou pas, enfin, sans enlever la valeur du deuxième gardien, c'est vrai que c'est un sport où là, je pense que t'as vraiment besoin de temps de jeu pour t'acclimater, de ta défense, de schéma, enfin. Il y a plein de choses qui, en termes de poste de gardien, je pense que c'est peut-être un des sports où c'est le plus compliqué
de s'adapter
à gérer, ouais.
Entre une équipe et une autre. Ok, bah très bien pour ce qui est des Ducs. On va maintenant passer à ma chronique sur le in-season tournament en NBA. Voilà, c'est la grosse nouveauté de cette saison. C'est donc l'arrivée de ce nouveau tournoi NBA, le In-Season Tournament. Les plus bilingues d'entre vous auront compris que c'est un tournoi qui a lieu pendant la saison. Mais alors vous demandez sûrement, mais comment c'est possible? Un tournoi pendant la saison, comment ils font? Bien tout simplement parce que les matchs de phase de poule du tournoi comptent pour le bilan de la saison régulière de chacune des équipes. Ainsi, une fois par semaine, on a une journée avec que des matchs de In-Season Tournament où les équipes jouent sur un parquet différent qui peut faire mal aux yeux pour certains. Et on a vu des parquets tout rouges, tout flashy, qui c'est pas beau à voir, hein, honnêtement. Mais il y en a qui sont sympas. Et voilà, en plus de ça, elles jouent aussi avec les maillots City Edition qui sont pour la plupart très stylés, je trouve. Et comme je l'ai dit juste avant, du coup, le tournoi démarre par des phases de poules. Il y a 6 poules, 3 poules par conférence, donc conférence Est, conférence Ouest, évidemment, constituées de 5 équipes par poule, toutes de la même conférence. Ensuite, il y a les quarts de finale qui ont lieu, opposant à chaque fois le premier d'une poule face au deuxième d'une autre. Ce sont des matchs à élimination directe, contrairement exactement à ce qu'on peut voir dans les playoffs où c'est des matchs au premier à 4, des BO7. Et ensuite, du 7 décembre au 9 décembre, aura lieu un Final Four, comme on peut le voir en Euroleague. Un Final Four qui se déroulera à Las Vegas, un peu, j'ai l'impression, the place to be en ce moment dans le sport.
Faut rentabiliser la sphère. Hein.
Ouais, c'est ça, ça coûte cher. Les habitants peuvent pas payer tous les impôts. Et voilà, du coup, la finale aura lieu le 9 décembre, ça fait un peu tôt le 9 novembre, ça serait déjà passé. Ouais. Avec à la clé des très belles primes d'argent, donc pour les joueurs, je crois que c'est $500,000 pour chacun des joueurs vainqueurs, ainsi que des nouveaux trophées individuels de type MVP, défenseur, meilleur coach, meilleur marqueur, etc., etc. Alors actuellement, il n'y a pas vraiment d'équipe favorite, j'ai envie de dire, pour ces matchs. Il y a eu très peu de matchs joués. Va falloir attendre la fin des phases de poule. Mais bon, je vois bien quand même une équipe assez outsider au titre qui peut se concentrer sur un tournoi comme ça, même si c'est des matchs justement qui comptent pour la saison régulière. Et c'est là que ça peut être bizarre, où justement les équipes ne reposent pas des joueurs ou font des choix tactiques différents de ce qu'ils auraient pu faire, parce que justement les matchs comptent pour la saison régulière. Donc c'est un tournoi qui va pas être délaissé du tout par les équipes, et ça c'est une très bonne chose.
C'est à but économique ou
j'ai l'impression
à ton avis avec la Las NBA Vegas, de l'économie, non,
en général Las Vegas c'est pour faire vendre, hein, ça.
Bon, le choix de la ville, oui clairement. Après, même le choix de faire tournoi en pleine saison,
alors que les matchs y comptent,
ça c'est juste pour ajouter de l'attractivité, mais aussi pour ajouter des titres, comme j'ai dit à la fin, il y aura le MVP du in-season tournament, en plus du MVP des finales, du MVP de la saison régulière. C'est aussi pour faire plaisir aux joueurs d'un autre côté, pour amener du spectacle en plus, et en effet faire raquer les gens et gagner de l'argent.
Après, ce qu'il faudrait voir. Ça fait combien de temps qu'ils l'ont créé, celui-là?
C'est la première saison.
C'est la première année, donc il faudra voir sur deux, trois saisons. Est-ce que les matchs qui comptent pour ce tournoi, en termes d'intensité de match, est-ce qu'il y a plus d'attrait, est-ce que c'est mieux joué, il y a plus d'engagement de la part des joueurs qu'un match, on va dire, lambda qui compte pour ta saison, tu vois,
ça compte pour la saison aussi.
Ouais, ça, c'est
ouais, mais justement, si tu veux, t'as un double enjeu, sur ces matchs-là. Donc, à voir si ça fausse pas quelque part un peu
le
championnat, au final, parce que, surtout que les équipes vont se recroiser,
En championnat,
sans ce tournoi-là, donc.
Exactement.
Et les quarts de finale, Final Four, ça compte,
pas dans la saison. Non, mais parce que sinon, il y aurait des bilans différents en fonction des équipes. Ça aurait été bizarre pour calculer le classement final. Mais ouais, pour revenir sur ce que tu disais, Cédric, ce qu'on voit actuellement, c'est des matchs à intensité plus ou moins égale. Mais, peut-être que, justement, quand on sera vers la fin des phases de poules, ce qui est assez prochainement quand même, en fonction du classement de chaque équipe, c'est clair qu'il y en a qui seront soit déjà qualifiés, soit déjà éliminés, qui vont en avoir un peu plus rien à foutre que l'autre s'ils gagnent, ils sont qualifiés, c'est sûr, sinon ils sont disqualifiés. Donc après, faut voir, peut-être qu'il y aura pas ça du tout, on sait pas encore.
Non, ouais, mais ça
reste expérimental.
Ça, l'avantage, c'est comme c'est la première fois, ça peut soulever tous ces points-là, et on verra réellement ce que ça va donner. De toute façon, on pourra faire un premier bilan à la fin de ce premier tournoi, mais bon, je pense que c'est sur la longueur qu'on pourra juger si c'est vraiment utile ou est-ce que ça fausse le championnat, plein de choses comme ça.
C'est comme le play-in, quand il était arrivé, c'était en 2019, il me semble. C'était, du coup, le play-in, c'est en gros, les équipes de 12e à 8e doivent jouer des tours supplémentaires pour se qualifier en play-off. C'était largement critiqué quand c'est arrivé. Et finalement, notamment par LeBron James. Et finalement, ça l'a sauvé, LeBron James, l'année d'après, quoi. Donc, et maintenant, ça plaît, c'est la norme, et c'est comme ça, quoi. Mais quand c'est arrivé, c'était vraiment pas bien vu, et c'était critiqué, quoi. Alors que ça s'avérait être une bonne idée. Donc, on espère que ce soit la même chose pour ça.
Au-delà de ça, je trouve ça quand même dommage que ça se joue à Las Vegas. C'est pas forcément dans les villes des clubs.
C'est pour trouver un Final Four. Il y avait, justement, avant qu'ils annoncent la création de ça, il y avait des discussions sur la création de nouvelles équipes. Du coup, il y avait Seattle, où il y avait avant les Supersonics Seattle qui sont devenus les Oklahoma Thunder. Et il y avait une équipe à Las Vegas. Il y avait ces deux villes-là. Il y avait Vancouver aussi, je crois. Il y avait du coup ces trois villes-là qui étaient discutées. Et finalement, il n'y a rien eu. Et il n'y a eu que un truc à Las Vegas. Donc je pense qu'ils voulaient apporter de l'attractivité à Las Vegas. Il y a déjà une équipe de WNBA. Mais c'est tout, quoi, niveau sportif. Il y a les F1, du coup, mais...
Ouais.
Voilà, quoi.
Ouais, mais de toute façon, on fera le bilan, je pense,
à la fin de la saison.
Peut-être même avant, quand tout ça va bien se décanter.
Exactement.
Déjà sur les premiers matchs, pour nous faire des retours.
Tout à fait. Je m'occuperai de ça.
Il y a déjà eu les premiers matchs, là.
Deux journées de jouer. C'est une fois par semaine. Enfin bref.
Voilà. Le maillot des Spurs est très stylé. J'ai pu
ah
voir.
Ah oui, de toute façon, à mon avis, on te fait des maillots spécifiques.
City Edition.
Ça, par contre, oui, en termes de marketing, je me fais pas de soucis.
Non, ils savent y faire. Ils sont rodés maintenant. Voilà pour ce qui était de cette chronique. On va maintenant passer à la pause musicale que tu vas nous présenter, Cédric.
Ouais, on va rester sur du classique, du rock. On va écouter un petit AC/DC avec le morceau TNT.
Il est 20h28, vous nous écoutez toujours depuis le 101.5 FM ou le site www.radio-g.fr. On va tout de suite passer aux actus internationales avec le football. Alors, pas de Ligue 1 pour cause de trêve internationale, mais du coup, la France a joué.
Ouais, c'était un carton plein pour les Bleus. L'équipe de France a explosé le record de buts en un match qui était de 10-0 et il avait été établi en 1995 face à l'Azerbaïdjan. Et c'est désormais un score qui est de 14-0 et il a été battu ce samedi face à Gibraltar à Nice. Les Français étaient déjà qualifiés pour l'Euro, mais Didier Deschamps a décidé d'aligner une équipe presque type. Ils nous ont donc proposé un magnifique spectacle avec notamment un triplé du capitaine Kylian Mbappé, dont un but magnifique de 40 mètres qui le place en tant que joueur le plus jeune à atteindre la barre des 300 buts devant un certain Neymar, Lionel Messi, Ronaldo. ce qui fait de lui vraiment encore plus un grand joueur. On a pu aussi voir une retournée d'Olivier Giroud qui est rentré en cours de jeu mais qui a quand même inscrit un doublé. Aussi, également un doublé pour Coman, et décidément c'était le match de tous les records puisque notre Wahir Zahir Emery national est devenu le plus jeune joueur à marquer un but en équipe de France pour sa première sélection à très exactement 17 ans et 255 jours. Sur ce but marqué, il s'est malheureusement blessé. On espère pour lui que ça va aller. Il semble être indisponible
15 jours
et ratera malheureusement sûrement le match contre Newcastle. Et ce soir, je vous rappelle qu'il y a un match. Nos Français se déplacent à Athènes pour affronter la Grèce avec une équipe que l'on peut considérer de remaniée, mais quand même avec des tauliers. Donc, je vais procéder. Enfin, j'ai la compo, donc.
Ah, vas-y.
C'est pas McMaignan au goal, mais Brice Samba, le gardien de Lens. En défense, c'est une défense à 4 avec Koundé à droite, Saliba dans l'axe et Lucas Hernandez. Et à gauche, son frère Théo Hernandez. Un milieu Rabiot et Fofana. Et une attaque Dembélé, Griezmann, Colomouani et Giroud. Et Griezmann qui est capitaine puisque on a un absent, Monsieur Kylian Mbappé.
Ouais, il est juste sur le banc.
Oui, mais ça fait un peu bizarre de pas le voir sur la compo.
On a l'habitude de le voir même contre
la Grèce. Contre Gibraltar.
Gibraltar, oui, pardon. il était là, donc voilà. Cédric, est-ce que tu as pu voir le match contre Gibraltar? Qu'est-ce que tu en as pensé?
C'est beau le tennis quand ça se finit en 2-7. 7-0, 7-0, c'est beau. Ouais. Non, mais après, c'est... on est habitué, hélas, avec des équipes comme Gibraltar. Bon, voilà, c'est des amateurs. Hein, c'est...
Ils retournent travailler.
C'est, voilà, c'est ça.
Quoi.
C'est enfin, eux, c'est
pas. Il y a que 3 pros dans l'équipe.
Ouais, voilà, c'est un peu compliqué d'avoir des pros dans ces pays-là où c'est pas la priorité de jouer au foot ou même déjà dans les autres sports.
Ils sont 30 000. Hein.
Voilà, c'est ça. Après, en soi, bon, ça a permis de travailler des petites choses. Moi, je trouve ce qui est dommage sur un match comme ça, on pourrait faire tourner un peu plus.
Ouais, il est peut-être fait un peu tourner déjà dans la titularisation. Donc, on a vu Zaire Emery, on a vu c'était Todibo, je crois, qui était titulaire.
Oui, c'est ça.
Ouais, enfin, tu peux prendre plus de risques, en fait. Hein, c'est...
Oui, mais je pense
là, que... tu vois, par exemple, un McMaignan, tu peux le mettre. Alors après, bon. C'est compliqué parce qu'il a besoin de matchs en équipe de France, mais sur ce match-là, clairement, quitte à faire le turnover, moi je l'aurais fait, tu le fais jouer maintenant contre la Grèce. Oui, historiquement, quand même, un adversaire un peu plus redoutable que...
Gibraltar.
Que Gibraltar, voilà. Donc, non, bah, après, voilà, quand on entend les propos de Deschamps qui dit à la mi-temps, en gros, que bon, faut respecter l'adversaire, faut continuer de jouer. Et ce soir, quand tu vois que le turnover qu'il effectue, alors que c'est pas un match amical, le discours est un petit peu bizarre, tu vois. Enfin, dans ces cas-là, tu mets vraiment ton équipe type, même ouais. contre la Grèce, même si on sait qu'on est qualifié. De toute façon, on le sait depuis 2 matchs qu'on est qualifié, avec la première place, elle était sécurisée. C'est, tu vois, c'est double discours, je trouve que les fins sont pas très cohérents. Après, ça paraît logique de... Puis je crois qu'il a changé aussi son système du coup ce soir.
Ouais, non, bah 4-2-3-1
c'est classique.
Oui, 4-2-3-1 c'est classique. Oui.
Ouais. Donc à voir après. Mais c'est surprenant. Enfin, tu vois, contre on va dire une équipe moderne, t'as le discours. Bon bah allez, faut continuer à les plomber, faut les plomber parce que c'est les respecter.
Oui, bah oui.
Et puis derrière, tu vois, contre la Grèce, bon bah. On met notre deuxième ou troisième gardien, on met on change les attaquants, enfin c'est
tu vois moi c'est ce qu'on m'a dit aussi, je dis pas que je suis tout petit et quand je mets une raclée c'est on continue quoi, on laisse pas tomber, on le laisse pas marquer.
Ouais, mais sur un match comme ça, tu peux prendre le risque de prendre de faire pas mal de changements, tu vois. Enfin,
ouais, mais après, le truc, c'est qu'il y a aussi Zaire Emery qui lui a coûté un passage de changement, tu vois. Ils en ont que trois.
Oui, bah
après il a fait des changements. Moi, je trouve pas ça.
Il y a plus de trois changements maintenant.
Oui, il y en a cinq.
Il y en a cinq,
mais
il y a trois vagues. Voilà.
Ouais, mais.
Il y a deux fois, ils doivent faire deux changements de suite.
Mais, enfin, voilà, tu vois, enfin. Clairement, sur ce match-là, le samedi, on aurait pu oser un peu plus. Je pense pas que. Alors le score, il aurait été différent, mais enfin limite, on n'est pas.
Mais je pense qu'il voulait aussi envoyer un message à tout le monde et dire la France est là. Ils mettent 14-0 à Gibraltar. Enfin, ouais, ils sont déjà qualifiés pour l'Euro sans avoir perdu de match.
On nous a déjà vu galérer contre des équipes comme ça, hein, oui. Gagner un pauvre 2-0.
Ouais, mais
là, même s'ils avaient le but, on en met 14. Ça prouve que. On est solide et que bon.
Je sais pas. Enfin, contre Gibraltar, là, je suis pas sûr que ça prouve grand chose. Ça prouve juste ok qu'on a plus de joueurs professionnels, des choses comme ça.
Je vois par exemple l'Angleterre ou une Italie gagner 14-0 face à une petite équipe. Ça m'envoie quand même un signal, même si j'ai pas vu le match. C'est ça. Je pense qu'il voulait aussi.
Ça, le 14-0, il fait peur un peu.
Voilà, c'est ça.
Voilà pour ce qui est des Bleus, on va pas en parler plus longtemps.
Parce que chez les Bleus, ça a été.
Ouais, l'absence de Zaire Emery.
Est-ce que justement, ça va pas un peu perturber la préparation pour la qualification c'est Europe, je crois.
Ouais.
Et du coup aussi la préparation pour les JO.
Ouais.
Mine de rien, ça a posé la question.
Mais bon, après, je pense qu'il a fait son choix aussi de jouer avec les seniors plutôt que les bleuets.
Bah c'est pas vraiment que tu fais le choix, hein, c'est
bah il pourrait presque refuser.
À partir du moment où on t'appelle en équipe A, c'est très compliqué de dire non.
Il y a eu des discussions aussi entre Didier Deschamps et Thierry Henry.
Oui.
J'imagine.
Je pense que Thierry Henry en a parlé.
Ouais, non, on a parlé.
Il semblait pour lui que Zaire Emery avait le niveau d'aller chez les seniors et que pour lui c'était une bonne chose et qu'il allait progresser, qu'il allait prendre de l'expérience et Henry a donc il a approuvé le fait que Zaire Emery aille chez les seniors quoi.
Ouais, donc
puis on va falloir voir sur la longueur s'il a appelé régulièrement en équipe.
Je pense que oui.
Ouais, je pense que là il... en tout cas tant que Tchouaméni sera absent
et Kamavinga aussi maintenant.
Ouais, Kamavinga oui, c'est vrai,
absent pour 2 mois.
Ouais, il s'est fait...
Et après voilà, enfin
deux mois seulement.
Ouais,
j'ai vu les croisés fin de saison.
Ah bah je croyais que c'était seulement 2 mois parce qu'il était touché mais pas encore rompu son ligament.
Ah ok, je sais pas, peut-être que ça a évolué depuis la dernière fois que j'ai vu un article. Mais bon, en tout cas ça fait pas plaisir en plus à l'entraînement.
Ouais c'est ça.
Ouais.
Je sais ce que ça fait et c'est pas cool à l'entraînement de se blesser comme ça.
Et d'ailleurs un petit clin d'œil pour les U17 qui jouent la Coupe du Monde, nos bleus U17 qui jouent la Coupe du Monde et qui ont gagné leurs trois premiers matchs de phase de poule et qui sont donc sortis premiers de leur poule et je sais pas contre qui ils jouent par contre.
Et on verra ça pour la prochaine émission je pense, mais on leur souhaite bonne chance s'ils nous écoutent évidemment. Maintenant on va passer à la F1. Avec un autre événement qui se passait à Las Vegas, donc en plus que le fait du Final Four d'une season tournament, c'était du coup le Grand Prix de Las Vegas, plein de paillettes et de jeux d'argent, etc. On connaît Las Vegas pour ça. Est-ce que c'est vrai que t'as pu voir le Grand Prix et est-ce que t'as vu la retransmission de l'esprit Las Vegas dans la course?
Ah c'est pas dans la course hein, qu'on l'a forcément vu le plus. C'est alors oui, chose qui m'a un peu agacé parce qu'on parle de budget de cap tout au long de la saison pour les histoires de moteurs, tout ça. Enfin, et là tout le monde avait quasiment changé ce qu'on appelle le livret, c'est-à-dire l'apparence de la voiture, donc soit aux couleurs de telle marque parce que c'est Las Vegas, soit les pilotes qui avaient des cas spécifiques, des combinaisons spécifiques, mais bon, encore ça on est habitué, mais tout ce qui a été un peu agaçant sur ce Grand Prix là, ça a été tout le strass et paillettes autour. Ça commence dès le jeudi avec une compétition de golf pour que ce soit diffusé sur Netflix. Voilà, donc ça commence avec ça. Ensuite, il y a eu retransmission d'une cérémonie de présentation des pilotes en pleine nuit sur des cubes, enfin c'était nul clairement, faut le dire. Et on arrive sur la première séance de qualification où on rappelle, hein, c'est des circuits qui sont vérifiés à l'avance, qui sont homologués à l'avance. Et là on arrive dans le 7 ou 8 minutes de course. Et là on a la Ferrari de Sainz qui s'arrête net et enfin qui un arrêt très dangereux, tout ça parce qu'il y a une plaque d'égout qui a sauté, qui a défoncé toute la voiture. Oh, tout l'arrêt en dessous de la voiture, donc ça on est c'est parti après en polémique puisque en fait quand vous touchez certains éléments de la voiture, vous avez le droit de les changer tant de fois dans la saison. Mmh. Sauf que là ils avaient pas le choix pour des raisons de sécurité, enfin fallait qu'ils démontent carrément même la batterie, tout ça, enfin c'était,
ah, ouais, c'était...
Et apparemment pour plus de 1 million de réparations sur la voiture. Donc il y a eu une petite demande de la part de Ferrari pour que il soit exempt de pénalité puisque intervention illégale sur la voiture, c'était 10 places sur la grille. Il y a une écurie qui a refusé. On sait pas trop, mais on en lisant les réactions des différents team managers, on peut savoir à peu près qui c'était. Et donc première séance d'essai donc qui est arrêtée au bout de 7 minutes. Décalage de la séance 2 qui fait que le public qui était là qui avait payé des sommes affolant, hein, à 3 chiffres à 4 chiffres pour juste être dans les tribunes qui se sont vus dégagés par la sécurité parce que le personnel qui s'occupe des tribunes, tout ça, du nettoyage des pistes, tout ça, il y a une certaine heure il partait.
Oh là là.
Donc on s'est retrouvé, c'est simple, la séance 2, elle a commencé à 11h du mat, je crois, de mémoire.
Et la séance 1, elle était à combien ?
Elle était censée être vers 7-8h, je crois.
Ah oui, oui c'est
donc, beaucoup. Donc, on rappelle, à cette heure-là, aux États-Unis, on est en pleine nuit.
Ouais.
Donc voilà, que dire de plus, parce qu'il y a tellement de choses. Normalement, il y avait des codes couleurs qui étaient interdits sur la sphère, notamment le rouge, le bleu, et le jaune, qui sont les couleurs drapeaux, des drapeaux.
On a eu
toutes ces couleurs-là sur la sphère. voilà, donc tout partait un peu mal, on va dire, et ça a continué. Bon, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Défilé des pilotes avec des vieilles voitures, donc ça se fait couramment. Ouais. Sauf qu'il y a une voiture, celle où était Lewis Hamilton, apparemment qui a eu des problèmes moteurs, de l'huile partout sur la piste.
Donc, c'était avant la course, ça ?
Ouais, quelques heures... Donc il a fallu mettre du sable, tout ça, pour pomper. Enfin, donc la course sur ce point-là partait peut-être un peu compliquée. Et heureusement, voilà, pendant la course, on a eu des bons dépassements grâce aux lignes droites où on peut utiliser le DRS. Mmh. Donc c'est une partie où vous pouvez avoir de la puissance supplémentaire dans votre moteur pour doubler. Donc en soi, le bilan sur cette course-là, c'est que il y a eu un peu de spectacle. Je suis pas fan, en tout cas, du format nocturne. Mmh. Surtout à cette heure-là, enfin.
À la télé, ça rendait bien quand même, ou même pas?
Ça rend bien parce que c'est comme sur les circuits où c'est en fin de journée, comme. Ouais, qu'on a pu voir avec lumière synthétique, donc c'est le même système, sauf que là, tu mets les lumières synthétiques, plus les lumières de Las Vegas, plus les lumières de cette sphère, tu vois, les pilotes, c'est infernal, hein, là où d'habitude, il leur faut peut-être une dizaine de tours pour s'habituer à cette lumière. Il en fallait beaucoup plus. Mais au moins, on a eu une belle course pour le podium. On retrouve Verstappen premier. Bon, ça c'est l'habitude. Mais il a eu quand même la vie un peu plus dure, puisque notamment, il a eu une pénalité de 5 secondes pour sur le premier départ, où ça s'est un peu frotté, bon, gentiment, mais ça a un petit peu envoyé le copain en dehors de la piste, sans drame. Voilà. Donc, on retrouve Charles Leclerc qui partait en pole deuxième, et qui a fait une super course. Et Perez qui partait de très loin, qui finit troisième.
Ouais.
Et du côté français, on a Ocon qui finit une quatrième place.
Ouais, c'est bien,
bien mérité, parce que lui, pareil, partait assez loin sur la grille. Ils ont pu gérer quand même la remontée.
Est-ce que c'est sa meilleure position depuis la saison quatrième à Ocon?
C'est possible, c'est possible.
Ouais, il a pas fait de podium.
C'est pas la meilleure position d'Alpine de la saison.
Ouais, Gast, mais il a fait mieux.
Ouais, mais en tout cas,
c'est une perte.
Pour Ocon, une bonne performance malgré un week-end compliqué pour lui quoi.
Ouais, donc en gros extra sportivement toutes les strass et paillettes
ouais, c'était pas ouais, dingue. Ouais. Enfin mais... ça a été même la cérémonie pour remettre le trophée, ça a duré des heures.
Ouais,
en fait ils sont finis la course. Il y a une voiture qui les a emmenés devant l'hôtel le plus connu de Las Vegas où il y a les grosses fontaines.
Oui.
Donc ils ont fait la com tout et puis hop on reprend la voiture pour aller dans les stands.
Ah bah comme ça ils ont pu mettre un maximum de pubs et gagner un maximum d'argent.
Non mais c'est bien ça. Peut-être qu'un jour quand ça va arriver sur Prime Video ou Disney Plus, ça nous fera des beaux reportages.
Voilà. Bon bah on va dire que sportivement c'était bien et les strass et les paillettes c'était ouais, moyen. Ouais. C'était du surplus, pas obligatoire.
Bon. De toute façon, la saison va se finir ce week-end.
Ouais, c'est la dernière course.
Ce sera la dernière course, ouais.
Et Max Verstappen qui est déjà sûr d'être premier, donc.
Tout est possible, mais bon.
Non, mais tout est possible. Bah, il est sûr d'être champion.
Ah oui, non, oui.
Oui, non, premier. Oui,
non, je parle de premier pour la course.
Oui, pour la course, évidemment, tout est possible. Mais oui. Je disais pour.
Ah oui, bah, au championnat, non, tout non, est.
Ça fait longtemps.
Tout est bouclé. Il y a juste maintenant, c'est la deuxième place au classement général.
Voilà.
Qui est acquis, même pour Perez. Donc, c'est plus la troisième maintenant que ça va se disputer. Ouais. Et il y a sur la deuxième place constructeur, où là, ça peut encore jouer le week-end prochain.
Eh ben, on verra ça. Ce sera sûrement très intéressant. Je vais vous donner aussi le résultat du match entre Cholet et Riga pour la Champions League et malheureusement une défaite des Choletais 70-63. Je reviendrai dessus la semaine prochaine. On va enchaîner avec les actus internationales et le tennis avec Djokovic qui remporte son 7e Masters ATP et devient ainsi l'unique détenteur de ce record en ayant gagné 7 donc. Il dépasse Roger Federer qui est à 6.
Il a passé aussi c'était sa 400e semaine à la tête du classement
en numéro 1
classement ATP. C'est ça. Voilà, ça fait 8 ans.
Et bah ça alors c'est
je pense que ça sera pas battu avant très non. Très longtemps.
Là dans sûrement le goat du tennis, un des plaisirs orageux. Il est aussi du coup assuré de finir l'année premier du classement ATP. Maintenant NBA. Wemby continue de briller de manière individuelle, même si son dernier match hier soir n'était pas brillant. Cependant, son équipe continue, elle, de sombrer. Ils sont désormais derniers avec un bilan de 3 victoires et 11 défaites. Alors bon, certes, c'est une équipe de jeunes qui doit apprendre, etc. Mais bon, comme l'a dit Greg Popovich, le coach des Spurs, il peut tolérer des erreurs de jeunes, des mauvais shoots, des pertes de balles. Mais il peut pas tolérer le manque d'envie et c'est ce qu'il remarque vraiment le plus dans son équipe. Bon, ça c'est une chose, mais après il y a aussi des lacunes techniques et tactiques, faut le dire. Je trouve que l'équipe a encore du mal à trouver Wemby et c'est vrai aussi que les systèmes ne se portent pas beaucoup sur lui, ce qui peut en partie expliquer ses faibles pourcentages au shoot. De plus, Greg Popovich a fait le choix de mettre Jeremy Sochan en tant que meneur numéro 1, alors que c'est pas du tout son poste naturel, et même lui, il l'a dit plusieurs fois en conférence de presse, il aime pas jouer à ce poste, donc il leur faut sûrement plus de temps, car ce sont des jeunes, mais c'est clair que les résultats actuels ne sont pas suffisants du tout. Une autre actualité, on va parler un peu d'e-sport avec l'équipe T1 qui a gagné les championnats du monde de League of Legends. Je vous en avais parlé il n'y a pas si longtemps avec la Karmin Corp. C'est donc leur 4e titre pour cette équipe, ainsi que pour Faker, le GOAT du jeu. C'est le seul joueur à avoir remporté 4 sacres mondiaux. C'était sûrement son dernier. Et voilà, et peut-être que l'année prochaine on aura la Karmin Corp, une équipe française qui vient tout juste de rejoindre la LEC et qui pourra briller au World. On leur souhaite en tout cas. On va maintenant passer au débat de ce soir sur lequel on va parler de ski.
Qui va peut-être mettre du froid.
Oui, on va aller vers celle-là. Parce que ça fait 2 ans qu'on devait avoir des championnats du monde sur le site de Zerma Zervinia. C'est un glacier entre la Suisse et l'Italie à 3000 mètres d'altitude. Mais ça fait 2 ans que toutes les descentes sont annulées. On parle de ski alpin, donc à 3000 mètres d'altitude, en général, c'est plus ça. Du coup, ça fait 2 ans que toutes les descentes sont annulées pour les championnats du monde. Ça n'a pas remédié cette année. Il me semble, c'est 4 courses qui ont été annulées une fois de plus. Alors, ça pose plusieurs questions. Premièrement, question écologique, parce qu'on exploite, on a vu, je sais pas si vous avez pu les voir aussi, des images des grandes pelleteuses sur un magnifique glacier à 3000 mètres d'altitude qui sont en train de tout casser pour bien faire des belles pistes. Bon, c'est désastreux de voir ça. Qu'est-ce que vous en pensez?
Désastreux, oui et non. En fait, faut réellement voir dans les conditions que c'est fait, parce que ça fait aussi partie de l'entretien des comme les forêts où on va raser certains arbres pour soit en replanter ou soit pour faire une sorte de désherbage, tout ça. Après, ce qu'il faut voir, c'est que généralement, c'est le pourquoi ils s'attaquent à ce glacier-là. Donc là, entre autres, il y a l'aménagement de la piste autour de ça. Mais il y a aussi des fois, c'est simplement pour récupérer la glace et en fait pour combler le manque de neige, parce que on a eu le cas, nous, en France, pour le biathlon l'année dernière. C'était compliqué d'avoir de la neige. Et à mon avis, cette année, ça, c'est mal parti. Hein.
Bah là, pour le coup, cette année, ça a été annulé parce qu'il y avait trop de neige et trop de vent. Et l'année dernière, c'était annulé parce qu'il n'y avait pas assez de neige. Donc bon.
Voilà.
Ils ont mal dû gérer.
Mais là en Suisse, là c'était vraiment pour de l'aménagement de piste. Hein.
Ouais,
du coup, mais voilà. Bon, alors après, voilà, il y a ce facteur-là. Donc c'est toujours dommage, hein, bien sûr, de toucher à l'écosystème. Après, voilà, quand c'est bien fait, que c'est dans un but de réguler les choses et d'éviter que ça devienne une catastrophe derrière. Pourquoi pas, voilà. Et après, voilà, on sait que c'est à cet endroit-là, c'est compliqué d'organiser une course. Parce que je crois, enfin, au-delà du fait que ça fait 2 ans de suite que c'est annulé, c'est déjà arrivé par le passé qui dans ce coin-là que ça a été compliqué de faire des choses.
3000 mètres d'altitude, c'est.
C'est ça, à un moment, soit on trouve un meilleur spot pour ça, soit on change les dates aussi. Enfin,
ça commence en novembre. Enfin, c'est de plus en plus tôt. Bientôt, et ils vont commencer en août à faire les compétitions, et puis ils vont se dire, oh, bah, il y a pas de neige.
C'est ça, ça.
c'est ce que disent les skieurs. C'est peut-être déplacer le calendrier justement. Mmh. Où là, on leur fait justement commencer de plus en plus tôt, alors qu'ils disent que les meilleures conditions, elles arrivent limite en avril. Et en avril, il y a pas de compète. Hein. En gros, c'est fin de saison. La saison de ski, elle commence à s'ouvrir. Et elle se ferme justement fin avril. Et fin avril, il y a plus de ski, il y a plus de compète. Et il y a peu de vacanciers aussi qui y vont. Et donc il y a moins d'attrait. Et ils
ouais, puis pas. Bon, encore économie.
Oui, parce qu'il y a un problème de calendrier.
Oui.
Le calendrier déjà de base est compliqué parce que il y a donc le championnat du monde qui se déroule sur plusieurs pistes. Mais il y a ça qui se greffe. Alors, je sais plus si c'est tous les ans ou tous les 2 ans les championnats du monde.
La Coupe du Monde.
Enfin, la Coupe du Monde, voilà. Et ça, du coup, ça rentre aussi en compte dans les dans la création des calendriers. Donc c'est vrai que c'est bizarre des fois leur gestion des choses comme ça. Et encore, ça va qu'il n'y a pas une année olympique cette année. Enfin, ouais. Il aurait fallu rajouter ça.
Parce que là, si
en plus, dans le calendrier, mais ouais, c'est. Après, voilà, c'est. Ouais, c'est peut-être une bonne solution hein, de décaler jusqu'à avril, mais comment ça. Avril, c'est peut-être bien pour la zone européenne, mais comment on gère aussi toutes les étapes au Canada, aux États-Unis, je crois que c'est tout. Il n'y a pas de descente en Asie.
Non, il me semble pas.
Si. À Pyongyang.
Voilà. Ouais. En Pyongyang, on connaît les solutions. Ouais. Et c'est vrai que quelque part, c'est des solutions qui peuvent être intéressantes, mais bon, il y a toujours on revient toujours sur le problème de l'écologie. C'est, voilà, de la neige artificielle. toute façon, il faut les bonnes conditions pour qu'elle puisse déjà être fabriquée et qu'elle puisse tenir.
Exactement.
Et ça va être de plus en plus compliqué.
Oui, c'est...
Et puis, c'est pas... Enfin, il y a le réchauffement climatique qui se fait de plus en plus présent. Et le fait de se déplacer partout, de casser les écosystèmes des glaciers, justement, qu'on l'a vu là, ça aide, mais absolument pas à réduire ça.
C'est ça.
Et si on continue comme ça, le ski, c'est vraiment un sport qui tend à littéralement disparaître. Peut-être qu'il sera encore là pour la compétition, mais pour les particuliers qui veulent partir en vacances et faire une semaine de ski, c'est de plus en plus compliqué. Il faut monter de plus en plus haut. Les forfaits sont de plus en plus chers. Et ça pose là aussi un tas de problèmes écologiques notamment, mais aussi financiers, mais et auxquels on trouve pas tellement de réponses. Et j'ai l'impression qu'il y a pas grand monde qui essaie de faire boucher les choses.
On va tous mettre au ski à roulette.
Ouais, sur de l'herbe. Et
comme le biathlon où ils font sur du goudron.
Ouais, mais
non, ça fait peur. Ça fait peur.
Ouais, c'est ça.
En soi, c'est pas que ça fait peur, parce que j'ai envie de dire la compétition au niveau, tant pis, écoute, ça doit disparaître.
Ça fait bizarre un peu.
Tant pis, c'est-à-dire que vraiment, le ski fait rien pour réduire réellement leur empreinte carbone.
Ils montrent une image d'elle qui est encore pire.
C'est pour ça que je te dis tant pis pour eux, à un moment, on sait les conséquences, même s'ils toucheraient pas de toute façon à ces glaciers-là. Hein,
ça dépend pas uniquement d'eux, mais bon.
Non, mais des saisons comme ça, faire des allers-retours partout, ça aide pas. Enfin, c'est
oui, clairement.
Le calendrier déjà, faudrait. Mais même, on revient au même problème que pour la F1. La F1 qui a essayé un petit peu de réfléchir là-dessus, c'est quand tu fais par exemple une étape en Europe. T'en fais une deuxième en Europe.
Ouais.
Logique.
Ouais.
Mais si tu fais Europe, Canada, tiens, après on va aller en Asie. Ouais, puis après on va revenir en Europe, puis après. Parce que tu vois, sur ce point de vue-là, au niveau écologique, ça pose des problèmes, quoi.
Ça, c'est, je pense, la F1, le surf aussi, ça pose des problèmes, parce qu'il faut toujours aller dans les meilleurs spots.
Ouais, mais encore au surf, il y a moins de déplacements sur une saison, tu vois.
Ouais. Ouais, c'est vrai que la F1, c'est quand même pas mal.
Et puis, c'est plus dispatché aussi, mais tu vois, la F1, quand c'est un Grand Prix tous les 15 jours,
ça bouge tout le temps.
C'est ça, c'est, tant que ça reste sur le sol européen, c'est pratique, effectivement. Mais dès qu'on veut aller un peu plus loin, l'année prochaine, il y a au moins deux voyages de prévus pour aller aux États-Unis.
Ouais.
Au lieu de trois. Bon, il y a déjà une amélioration.
C'est déjà ça.
Enfin, États-Unis et,
Amérique du Nord.
Du Nord et du Sud.
Okay. Donc, ouais, en Amérique, quoi.
Voilà.
Pour ce qui était de ce petit débat, on espère préserver nos belles montagnes pour pouvoir continuer à y aller et pouvoir faire du ski dans les meilleures conditions.
Ou faire du ski de fond comme ça, la neige, vous n'avez pas besoin d'aller la chercher très haut.
Ouais. Il
y a quand même besoin de neige.
Ouais, s'il y a besoin de neige, faut aller chercher.
Mais t'as pas besoin de monter super haut pour.
Il faut chercher de la neige.
Bon, trouver. Dans les Vosges, t'en as quand même régulièrement.
Ouais. Bon. C'était tout pour ce débat. On va vous laisser en vous souhaitant une bonne soirée et le match de l'équipe de France qui a démarré est toujours 0-0. Bon match à tous. Et voilà, bonne soirée tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.